Épisode bonus, pod de char. C'est pas la première fois que je fais ça, mais c'est la première fois que j'en poste un publiquement sur le channel public. D'habitude, c'est sur Patreon. Donc, en gros, c'est simple. Je prenais vos questions, vos sujets, de quoi vous voulez que je jase. Et moi, je tourne un épisode. Ben, en fait, j'enregistre un épisode en audio seulement dans mon auto pendant que je fais de la route. C'est vraiment le fun à faire. Ça aide à passer le temps parce que des fois, la route, ça peut être long et plate. Et j'en fais beaucoup. Donc, ça m'aide énormément à m'amuser et à rendre ça moins pénible. Surtout quand l'autoroute est dégueulasse. J'haïs la 50. Et je pense que je suis en guerre ouverte contre la 50. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont écrit des questions sur la page de Facebook, du Carré de Sable, sur le Patreon, sur Instagram. Posez-en d'autres. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, posez-en. Je vais mettre ça dans un petit document. Puis, prochaine fois que je fais un pod de route, parce que pod de char, pod de route, c'est pas en moi, c'est au pic bois. Pod de char. Je vais répondre à tout ça, puis ça va être le fun. Puis moi, ça me permet de faire des petits épisodes en solo, puis vous donner du contenu de plus. Fait que merci à tous ceux qui ont posé des questions, merci à ceux qui ont acheté le show aussi, by the way. Tous ceux que je vois les ventes rentrer, puis c'est vraiment nice. Fait que merci beaucoup d'acheter mon show, ma thérapeute est morte, pbrivard.com. Je suis vraiment, vraiment content du résultat à date. Les commentaires sont écœurants, puis le feedback est tout le temps merveilleux. Fait que merci à tous ceux qui ont pris la peine de faire ça. Puis quand on se croise, là, parce que là, j'ai croisé plein de monde récemment qui écoute le podcast, et arrêtez de vous sentir mal de ne pas être sur le Patreon ou de ne pas payer ou whatever. C'est tout le temps la première affaire. C'est comme, hey, j'écoute ton show depuis le début ou genre depuis 4 ans, 3 ans, mais tu sais, je ne paye pas, puis genre, ils s'excusent, puis excusez-vous pas, c'est pas grave, c'est la vie, vis ta vie. Si tu veux payer, paye. Si tu ne veux pas payer, paye pas. L'important, c'est juste qu'on se jase, puis qu'on ait du fun, puis quand on se croise, on peut se jaser, puis. Oui, il faut que je gagne ma vie, mais je suis pas à l'argent au point que si tu payes pas pour mon podcast, je fâche après toi. Là. Moi, t'aimes-tu ça? T'as-tu du fun? T'as-tu de quoi écouter quand tu vas à job ou quand tu t'endors le soir? Moi, c'est tout ce que je veux. Fait que enjoy, amusez-vous, je vous aime, puis je suis content de vous croiser. Salut!
Hey, hey! Bon matin! Ou bonsoir, bonne nuit si vous l'écoutez le soir. Moi, je suis parti de Gatineau à 7 heures ce matin. J'ai un merveilleux 6 heures de sommeil dans le corps. Et je ne suis pas sur la 50. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai pris la 417, qui est vraiment moins pire. Parce que comme ceux qui ont écouté les pods de char, vous savez que je déteste la 50. Et avec raison, je pense que la 50 mérite d'être détestée. C'est une autoroute dégueulasse que je n'aime pas beaucoup. Mais c'est ça. Ça, c'est ma belle voix de matin de gars qui a dormi 6 heures parce qu'il y a un meeting à Montréal, puis il faut absolument que j'arrive à temps. Donc, j'ai décidé d'aller faire. Hier, je faisais un podcast, pas le carré de sable, je faisais Apporte-moi ton CV. Le podcast de Ludovic Bourgeois et Christophe Dupéré, ils m'ont invité au festival Transistor. Transistor, c'est comme une boîte de podcasts puis de radio numérique, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Puis là, c'était le festival de la radio numérique, fait que j'ai été invité à aller juste déballer mon CV. Vous écouterez ça, c'était vraiment le fun à faire, c'était live, il y avait plein de monde. Vraiment une belle vibe, ça va être un bon show, je pense. Puis là, j'ai dit pod de char parce que quand j'ai écrit sur ma page et sur Patreon, hey, je vais faire un pod de route, donnez-moi des sujets, des questions et tout ça. Là, j'ai reçu un message de PC Tremblay qui fait, hey, pod de route, c'est les Picbois qui font ça. Puis j'ai fait, ben, t'as bien raison. Par contre, je faisais mes pods de char avant que les Picbois sortent pod de route. Mais là, j'ai appelé ça pod de route. Je fais, hey, on fait toute la même affaire. Je pense que les gars me pardonneraient. Je pense pas que je vais partir en guerre avec les Picbois. J'ai une grosse douceur. Une bataille avec les Picbois. À part Max. Max me ferait peur, là, mais Julien puis Dom, je suis capable d'y prendre. Genre les deux. Les deux contre moi, je suis capable. J'ai même pas peur. Fait que très content de faire ça. Merci à ceux qui ont écrit des questions, des sujets. Je suis bien pété. Là, je m'en revenais. Puis là, je me cherchais un café. J'étais juste comme OK. Puis là, j'ai embarqué dans le char. J'ai fait, ah, c'est vrai, faut que je fasse ça parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier soir. Le podcast était à 9h. Puis tu sais, on est allé prendre un verre après. Fait qu'on est rentré à l'hôtel à comme 1h. Puis si ça fallait, je me lève à 7. Puis c'est drôle parce que j'étais arrivé à l'hôtel hier. Puis il y avait personne. Toutes les portes étaient barrées. Puis on avait faim. Là. On a comme fini le show. On avait toute faim. On arrive au bar. La cuisine est fermée. Fait qu'on n'a pas mangé. Fait que moi puis Ludovic, on s'est pris des Bloody Caesar. Moi, il était virgin, mais on s'est pris des Bloody juste pour avoir de quoi de consistant. Puis ça a quand même fait la job, là. Fait qu'on buvait genre du gros Clamato puis des affaires de même juste pour avoir un fond puis manger une olive parce qu'on était affamés. Fait que là, j'arrive à l'hôtel, il y a personne, il est comme 1h du matin. Puis je suis comme, mais là, mais je savais pas qu'il fallait que je fasse mon check-in avant. Tu sais, personne m'a appelé, rien. Puis s'ils m'ont appelé, j'étais sur scène. Fait que mon téléphone était en mode avion. Fait que là, je suis comme, ah non. Fait que là, je vous trouve un numéro. J'appelle Christophe, puis il dit, ah ben, il y a un numéro dans la porte. Appelle-là. Puis là, je fais, OK. Fait que j'appelle. La madame m'a fait, ah, ce sera pas long. Ça va prendre 10 minutes, mais je m'en viens. Puis là, j'étais comme, ah, j'ai tellement réveillé quelqu'un, c'est sûr. Je fais, pauvre madame. Là, je fais, ah, je me sens mal. Tu sais, à ce point, il est avec, j'assume son mari, là, qui était en pyjama, puis là, elle me fait mon check-in vite. Puis là, je dis, hey, t'as-tu tes machines à bouffe dans l'hôtel, quelque chose? Elle fait, non, il y en a pas. Elle dit, je peux te donner un morceau de gâteau. Fait que là, j'étais comme, what? Fait qu'elle est allée me chercher un gros morceau de gâteau. Fait que je suis rentré, j'ai envoyé des photos à Chris, puis j'étais comme, dang, fuck you, man. Non seulement, j'étais arrivé en retard, j'ai réveillé une madame, elle m'a récompensé avec un énorme morceau de gâteau. C'est la plus belle journée du monde. Fait que c'est ça. J'ai un gros gâteau avant de... comme souper avant de dormir. C'est pas génial. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous suivez le procès Johnny Depp, Amber Heard. Quelle histoire. Ça n'a aucun bon sens. C'est tellement... tu sais, c'est tellement gros puis intense que... on oublie que c'est du vrai monde. Genre, on est tellement... la télé-réalité, le divertissement, tout ça, on est comme... t'as quasiment l'impression que c'est comme une série que tu suis, puis il y a des rebondissements tout le temps. C'est fou comment cette ligne-là entre la réalité puis la fiction, quand c'est super loin de toi, on dirait que des fois, on se rend pas compte, puis on le consomme comme du divertissement, là. Mais moi, j'essaie de me ramener à... non, ça, c'est du monde, là. Ils ont vécu ça, ou ils se sont fait ça mutuellement. Ça n'a aucun bon sens. Puis ce procès-là, man, l'avocat qui s'auto-fait une objection, l'avocat de... l'équipe légale de Heard a pas l'air à être génial, de ce que je comprends, là. Je vois beaucoup de monde comme analyser le procès, puis j'écoute genre des avocats qui checkent le live feed, puis qui commentent, puis ils ont tout l'air de faire « OK, c'est une catastrophe, là, son équipe ». Fait quoi, ouais, son avocat qui disait objection hearsay, ça a l'air que c'est une objection, je savais pas c'était quoi. J'assume que c'est genre tu parles à sa place, il est pas là, on faut qu'on te croise sur parole, ça se peut pas, tu sais, tu peux pas juste dire ça. Il a dit ça comme 300 fois dans la même journée, tu sais, quand quelqu'un faisait son témoignage. Et là, c'est à lui de contre-interroger quelqu'un, il dit quelque chose, la personne commence à répondre, puis il fait objection hearsay, puis là tout le monde le regarde, hein? Et la juge a fait « Non, tu peux pas faire ça, c'est toi qui pose la question, tu peux pas faire une objection à toi-même qui a posé la question. » Puis, man, tout le monde part à rire, les avocats de Johnny Depp, ils autres sont pliés en deux, ils sont comme « Qu'est-ce que c'est ça? » Il y a un témoin qui témoigne dans son char en vapant, puis genre, il conduit, il se promène, puis là, mais il est en cours, t'es comme « Man, tu sais que c'était à la TV, tout ça, là? » Ah ben ça n'a aucun bon sens. J'ai hâte de voir ça va être quoi le dénouement de tout ça, puis comment ça va se terminer si genre, ils vont avoir une carrière après là, s'ils vont être capables de se remettre de tout ça, parce que c'est quand même il y a beaucoup d'affaires qui se sont dites là. Tu sais, je sais pas moi à Hollywood là, quand on apprend en cours que t'étais fâché après ton chum puis t'as chié dans le lit. Après ça, est-ce que ça fait est-ce qu'on fait comme ouais c'est cool, tu veux-tu auditionner pour ce rôle là? T'sais, c'est ça, il y a beaucoup de détails, là. C'est assez dirt là, à quel point il expose ça publiquement. C'est vraiment weird. Puis il y a plein de témoins, puis t'es comme... c'est des drôles aussi, des drôles de témoins. Je connais rien là-dedans, mais tu sais, elle l'amène à la barre, genre, je pense que c'est Elon Musk. Ça, tu sais, OK, c'est parce qu'elle le connaît, puis tout, mais... elle demande à James Franco. Puis tu sais, James Franco, là, il est pas... il a été un peu cancel, là. Je sais pas s'il l'a été totalement, là, mais... ouais, il a eu son lot de genre, ouais, je suis pas nice, puis je suis un beau tout croche. Fait que j'étais comme, c'est lui que tu veux qu'il parle pour toi pour dire que t'es correct puis t'es pas toxique. J'étais comme, je trouve ça weird. Puis je pense qu'il y a Jason Momoa, qui est l'acteur d'Aquaman, dans le fond, avec qui elle a joué, qui lui, il connaît Johnny aussi, puis ça a l'air qu'il est game d'aller témoigner contre Amber Heard. Puis j'étais comme... Moi, je me serais attendu à ce que, vu qu'il a joué dans un film avec, il a défendre elle puis tout. Puis ça a l'air que non. Là, il est comme, non, je peux aller parler de l'autre bord puis donner des infos à la cour. Fait que... En tout cas, toute une saga, c'est vraiment weird. J'espère que c'est ça. J'espère que ça va bien se finir puis que tout le monde va être heureux puis qu'il n'y aura pas trop de problèmes par la suite. Parce que maintenant, il faut que tu aies une vie pareille, là. Je comprends que t'es fâché, puis je comprends qu'il y a de la chicane, mais la vie va continuer, puis faut qu'il se passe de quoi, là, tu sais. Fait que on leur souhaite pas le pire. Dans les questions, je vais les passer. Évidemment, je suis en char, là, fait que je me suis fait une petite liste pour pas être sur mon téléphone. Je vais les passer en rafale. OK, ben là, c'est ça. J'avais joué de la... Je vais pas vous nommer parce que je les ai copiés-collés dans un petit fichier pour... Puis j'avais pas vos noms, là. J'ai fait ça vite, là. Fait que je m'excuse si je vous nomme pas. Je vous aime. J'apprécie full les questions. Mais c'est ça. Jouer de la bass au pic ou au doigt? Au doigt. Moi, j'étais un gars de doigts. J'aime beaucoup les doigts. Surtout pour la bass. Mais j'aime les doigts en général, là, je te dirais. Je trouve que c'est quelque chose qui est... Je trouve ça le fun qu'on ait 5 aussi, là. Tu peux en perdre, puis... Tu sais, t'en as de spare, là. Mais, ouais, les doigts pour la bass, all the way. Par contre, c'est un peu snob, là, de dire, ah, une bass, ça joue juste avec les doigts, puis tu devrais jamais jouer avec un pic, puis tout ça. Mais c'est quelque chose que je croyais quand j'étais jeune, parce que j'entendais plein de monde dire ça, puis j'étais comme, OK, ben, si je veux être cool, faut que je joue avec mes doigts. Sauf que... En vieillissant, je fais comme... Il n'y a rien de ça qui a rapport, là. C'est juste des règlements que t'adoptes de snob, là, de genre... les doigts, c'est la vraie affaire quand tu joues de la bête. Parce qu'honnêtement, le pic donne un autre ton complètement. Genre, fait que tu peux... Si tu sais, il y a des riffs, il y a des sons plus agressifs. Si tu mets de la disto, t'as plus d'attaque avec le pic. Fait que à un moment donné, ça devient juste comme... Comment je fais pour produire le son que j'ai besoin pour jouer? Puis le pic, ben c'est la solution pour plein d'affaires. Mais j'ai jamais vraiment pratiqué qu'un pic. Fait que je suis pas bon, puis ça me fait chier parce que là, il y a plein d'affaires que j'aimerais jouer, que j'essaye de jouer avec mes doigts, que je suis comme... Si j'avais un pic, ce serait tellement facile. Mais je suis pas bon. Par contre, j'ai comme découvert un peu des trucs, là. J'avais toujours eu des gros pics, moi, très durs, comme 1 mm et plus. Puis là, j'ai commencé à essayer des points 60, puis des trucs de même. Puis c'est des pics plus mous. Puis tu perds un peu en précision, mais c'est plus facile de strummer que ça. Fait que j'expérimente encore, je continue de me pratiquer puis d'avoir du fun avec tout ça. Quelles ont été tes influences, tes plus fortes influences comme bassiste? Mais quand j'ai commencé, il y avait, ben, Yes, Chris Squire de Yes. J'adorais comment il jouait. Je pense que ma plus grosse influence, c'était Karl Alvarez de Descendant et All, un band de punk avec un bassiste incroyable. Ben, tous les musiciens sont incroyables dans ce band-là. Là. Ben, j'adorais son playing. C'est comme s'il faisait du lead bass. T'sais, il y avait le guitariste qui jouait plein d'affaires, mais lui, il était tellement all over the place que c'était comme, ah, OK, j'adorais ça. Puis la bass, ça popait. À cette époque-là, il y avait Anti-Flag. Sinon, dans mes bassistes, ben, c'est sûr, Troy Sanders de Mastodon. Mais c'est pas tant une influence à la bass, Troy, plus que le gars, le charisme, tout ce qu'il fait. Mais son playing en tant que tel, t'sais, il est très basic parce que c'est ça sa job, puis il garde son rôle. T'sais. Mais Geddy Lee, j'adore Geddy Lee, Billy Sheehan, Victor Wooten, tous ces gars-là. J'ai jamais appris à slapper. Fait que t'sais, moi, j'ai jamais été un gros fan de Flea, puis tout ça, là, c'était pas du tout mon bag, en fait, là. Rage Against the Machine, j'aimais ça aussi, beaucoup, beaucoup. Puis là, dernièrement, il y a des gars sur qui je trippe, ben raide, là, qui sont Jacob Umansky, qui est le bassiste de... Il a joué dans Scale the Summit pendant un bout. Désolé pour les références vraiment nichées. Et là, il joue dans Intervals, que je suis allé voir en show au Théâtre Fairmount. C'était écœurant. C'était vraiment très, très cool. Lui, il est vraiment, vraiment bon. Il y a Jared, j'oublie tout le temps son nom de famille, de Archspire. Archspire, un band de tech death qui a aucun bon sens. Tu sais, les gars, c'est des mutants. Ils jouent de la six cordes, ils jouent à une vitesse qui n'a pas rapport. Ils masterent toutes les techniques. Dom Forêt, que j'ai reçu au podcast, Dom Lapointe, Forêt, en fait, je l'appelle Forêt, mais c'est Dominique Lapointe, qui lui aussi, ces temps-ci, ben, ça fait un bout, là, mais là, j'aime ça. Ces temps-ci, je suis dans une pause de rabbit hole de YouTube, de je regarde tout ce qu'il a fait, puis je fais, il est tellement bon, ça n'a aucun bon sens. Je suis allé voir Mastodon et Opeth, il y a une semaine, deux semaines. Tous ceux qui étaient là, parce que là, je sais qu'il y a plein d'auditeurs du podcast qui étaient là, parce que toute la soirée, j'ai jasé avec plein de monde, c'était vraiment nice. Honnêtement, ça faisait longtemps, peut-être la pandémie aussi, là, mais ça faisait longtemps que, tu sais, je me fais connaître de temps en temps, c'est correct, c'est le fun, puis tu sais, bonjour, bonjour, mais là, c'était non-stop, là, pendant toute la soirée, sauf pendant le show, parce que pendant le show, là, moi, j'étais focus sur le show, puis j'étais banni, puis j'avais mal au cou. Au point où, après ma sonnante, j'avais mal à la tête puis je pouvais plus headbanger en Opet. Fait que j'étais comme, bon, ben, je vais le vivre les bras croisés. Mais c'était vraiment cool, tout le monde, tu sais, me jasait, j'allais aux toilettes, whatever. Hey, man, très cool. Puis tout le monde était fin, puis genre, dans le parking. C'était vraiment, vraiment cool de vous croiser à ceux qui étaient là puis de vous jaser. C'était vraiment nice. J'étais sur le parterre. Il y a du monde qui était assis, qui avait pas le droit de venir sur le parterre. Fait qu'ils m'ont écrit après, genre. Là, j'étais comme, ah, paysan. Non, non, mais je les écœurais pas, mais ça me faisait rire de la jouer. J'ai payé 84$ pour être sur le parterre. Je vais me la jouer royauté. Merci beaucoup. Mais quel show. Il y a un dude à m'amener out of nowhere en deux bandes. Qui vient me voir avec. Il vient me voir, puis il fait comme, c'est ISM! Puis là, je fais, non, mais t'es pas loin! Puis là, il fait, ah! Puis là, il repart! Puis là, genre 10 minutes après, il revient avec son sel, avec. Il a comme des photos de moi sur son sel, puis il fait, ça, c'est toi! Puis là, je fais, oui, oui, c'est moi! J'ai carré de sable! C'est pas. C'est comme. C'est des podcasts! C'est pas de la radio comme c'est ISM, mais t'étais dans le bon ballpark! Tu t'es pas trop trompé! Ben bref, merci à tous ceux qui étaient là, avec qui j'ai jasé. C'était vraiment très, très nice de vous voir. Et je suis content, vous écoutez de la bonne musique. Je suis très fier de vos choix musicaux dans le carré de sable. Il y a quelqu'un qui veut que je parle du beef entre PA Method et JC Surette. Et ça, pour vrai, il n'y a rien à dire, dans le sens où... Vous avez vu, ceux qui l'ont pas vu, il y a eu comme un petit conflit. Généré par JC, évidemment, parce que PA attaque pas vraiment le monde, sauf si c'est des complotistes, là. Mais tu sais, PA, il avait rien à voir là-dedans, là. Il a juste réagi à quelque chose. C'est juste ça. JC a écrit un message contre PA sur Facebook, et là, c'est parti en couille, et les gars se sont parlé. Tout est cool, tout le monde a enlevé ses messages, les gars se sont parlé, il n'y a plus de chicane. C'était un soir. C'est ça, c'était un soir de brosse, puis un mauvais coupable. Dans le fond, PA, il a mangé la balle qu'il avait pas à manger parce qu'il avait rien à voir dans cette histoire-là. Fait c'est un gros malentendu, soirée trop arrosée, puis des mauvaises informations. Fait que tout est beau, on n'en parle plus parce que moi, je veux pas de mal à personne. Puis je parlais de JC, puis il était comme « Ah, tout est cool, tout est réglé », puis ça a été deux journées de tempête de recevoir des messages. Parce que tu sais, quand un gars comme PA... repose ce message sur sa page, puis tu sais, il cache pas trop le nom, puis ben c'est sûr que quand t'as 220 000 personnes sur ta page ou quelque chose de même, ben ça se peut que ça débarque sur la tienne, puis tu reçoives de la haine un petit peu, là. Fait que c'est ça. T'sais, fait que là, tout est beau, tout le monde est content, c'est une petite chicane. Il y a beaucoup de chicanes. Je sais pas si c'est la pandémie qui a fait ça, là, mais il y a full de chicanes depuis un bout, c'est fatigant. Le monde, ça pogne. Puis moi, j'aime pas le conflit. J'aime pas la chicane. Je suis pas ce gars-là. Je me nourris pas de ça pantoute. Fait que ça me fascine tout le temps, les gens qui aiment ça. C'est ceux qui provoquent beaucoup puis qui essaient de créer de la merde, là. Ça me fascine, cette espèce de vibe-là. OK, ça, c'est l'énergie que tu veux avoir dans ta vie en général. Le conflit, puis insulter du monde gratuitement, puis tout ça. Je suis comme... Il y a de quoi là-dedans qui me dérange? Que je comprends pas. T'sais, je me dis, tu vas avoir de l'attention, comme crée de quoi de vraiment nice, trouve une façon de en avoir qui est positive, là, parce que ça se peut pas, là, tout le temps vouloir être dans la chicane, puis dans des problèmes, puis du monde, puis des malaises quand tu recroises ce monde-là. J'ai reçu une question qui était ton comfort food de route. Moi, j'ai pas de comfort food de route tant que ça, honnêtement. Là, depuis que la tournée a commencé, tous les restos sont tout le temps fermés. Moi, je mange ce qui est le plus proche, qui est le plus simple. Parce que je prévois pas que je vais avoir faim. Fait que quand j'ai vraiment faim, c'est comme si c'était une surprise, même si ça m'arrive à tous les jours. Fait que là, je veux manger l'affaire la plus simple, la plus proche. Fait que j'ai pas vraiment de comfort food. Ben, peut-être genre des pépérettes puis des bonbons, mais tu sais, c'est pas du comfort food, là. Mais ouais, manger sa route, je suis un peu tanné, là. C'est tout le temps du resto, c'est tout le temps... Tu te sens jamais réellement super bien, là, quand tu manges sa route. Tu sais, parce que c'est rare que tu manges des vrais bons repas, nice. Parce que c'est tout le temps dans un resto, tu prends le quoi qui est le plus rapide, t'étais à la course... Tu t'as pas deux heures pour manger, là. T'as une demi-heure, puis tu grabs ce qui est le plus proche. Fait. Puis souvent, tu sais, t'arrives, puis l'endroit va te fournir, mettons, un repas. Puis ça, c'est cool. Mais même là, tu sais, si tu peux pas l'avoir après ton show, parce que moi, je mange rarement avant mon show, j'ai besoin d'avoir l'estomac vide pour jouer. Tu sais, si tu le manges pas, comme... Si tu manges avant, ben là, tu prends de quoi de super léger, fait que t'as pas accès à tout le menu que tu voudrais vraiment. Puis si tu prends de quoi après... Ben souvent, c'est fermé, puis là, ben tu leur demandes « OK, pouvez-vous me le préparer et me le garder? » Fait que t'as la version qui a passé une heure sur le réchaud. Fait que c'est ça. Fait que c'est jamais satisfaisant. Manger sa route, là... Il y a juste comme en tournée de one-man show avec, mettons, Laurent, que là, tu sais, lui, le show, mettons, il est fini à 10, puis à 10 et quart, on est dans le char, puis là, on s'en va à un resto qui nous attendait. Puis là, on mange comme faut, puis on prend le temps. Mais moi, en tournée, je fais pas ça, là. Pas mes tournées à moi, là. Moi, j'ai... La plupart du temps, je retourne à la maison direct. Fait je me prévois pas une activité, puis j'ai pas une équipe technique avec laquelle je chill en tournée, puis tout ça. Moi, je fais mon show, il y a des humoristes, puis soit que tout le monde repart à son bord, soit qu'on reprend la route ensemble. On est plus en mode genre rentrer à la maison, puis que de rester, puis de vivre notre soirée. Je veux tes histoires de service à la clientèle. Tes clients. Les moins préférés, ben écoute, vous écouterez, apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. J'ai raconté plein d'affaires, en fait, tous mes jobs dans ma vie, puis un paquet de trucs. Sinon, ben j'ai une histoire de service à clientèle que moi, j'ai été de la marde. J'avais acheté un oreiller chez Brou et Martineau, et là, je l'aime pas, c'est mousse mémoire, je me suis dit, je vais l'essayer, mais j'aime pas ça. Fait que le lendemain, je retourne, je fais, hey, ça marchera pas l'oreiller, tu sais. Ils sont comme, non, un oreiller, tu peux pas retourner ça, c'est vente finale. Puis j'étais comme, mais personne me l'a dit. Puis tu sais, ça fait longtemps, j'avais pas une scène, là. J'avais dépensé comme cher pour un oreiller. Puis là, le gars au service à la clientèle, c'est un Français, puis ça peut avoir l'air d'un préjugé dans l'histoire, mais il y avait l'attitude du Français chiant, là. Évidemment, ils sont pas tous de même, mais lui, il fait du service à la clientèle, fait qu'il deal des plaintes à journée longue, fait qu'il est déjà habitué. Puis, il y avait l'arrogance par-dessus, plus l'accent, que des fois, il y a une connotation condescendante alors qu'ils sont pas du tout de base, là. Écoute, il était arrogant, là, puis je voulais le puncher. J'avais aucun pouvoir, fait que j'ai juste... Je marchais dans le bruit Martineau en sortant fâché, impuissant. Ça, j'ai même pas pensé proche d'avoir un remboursement. J'ai juste craché à terre dans le magasin. Je suis pas fier de ça. Là. C'était avant que ce soit criminel. Là. Il y avait pas de COVID. Là. Puis j'ai juste fait « puh ». Puis là, j'étais comme « hein, je leur ai montré ». J'étais comme « mais quel esti de loser ». Je suis rentré dans mon char, j'étais comme « hey man, t'es laid, là. Pourquoi t'as craché en guise de protestation parce que t'as... » T'étais pas capable d'avoir ton remboursement d'oreiller. Je fais comme, mais quel esti de loser. J'aurais dû juste aller quitter des poubelles ou genre puncher un sac de vidange. Tu sais, ça fait vraiment le gars qui est comme... Tu sais, il y a un film, là, avec, je pense que c'est Nobody ou chose de même, avec le gars qui joue dans Better Call Saul puis dans Breaking Bad, qu'il joue un gars qui a comme pas réagi à une situation parce que c'est un nice guy. Puis à un moment donné, il s'en veut, puis là, il pète une fuse, puis là, il finit par, genre, péter tout le monde, là. Ben, c'est ça. Ça fait vraiment ça, là. Ça fait le gars qui réprime tout en dedans, faible, qui crache à terre en guise de « Ah, je vais vous montrer, gang de cave. » Là, j'étais comme « Ah, mon Dieu. » J'ai une photo. Je vais juste le lire. « J'aimerais ça que tu nous parles des changements que tu fais entre chaque set. » Que tu fais en tournée? Comment tes bits changent entre chaque performance? Lavia. Ben, Lavia aussi! Ça, c'est PC, justement, qui m'a... PC Tremblay qui m'a dit que j'avais pas utilisé le bon nom. Je suis content de savoir qui m'aime, parce qu'au début, j'étais comme, ah! Il me reproche d'avoir copié le nom des Picbois. J'étais comme, ah! Puis il a raison en plus. Fait que j'étais comme, ah non, là, j'espère qu'il m'en veut pas. Puis à la fin, il finissait, love you. Là, je fais, ah, merci, moi aussi. Tout est cool. Je suis pas un plagieur. Si oui, je plagie des noms de podcasts qui sont même pas une série régulière, là. Tu sais, c'est très niché comme plagiat, mon affaire. Comment mes sets changent entre chaque... Écoute, c'est fou. Entre chaque show, ça dépend. Ça dépend de la quantité que j'ai, de shows que j'ai dans la semaine. Ça dépend. Il y a différents types de spectacles. T'as des shows que tu fais pour travailler du stock. T'as des shows qui sont plus des shows où tu dois performer puis vraiment donner le meilleur show possible. Fait que ça dépend de ma semaine. T'sais, si j'ai 3-4 shows de rodage de bord, des sets de 10 minutes dans une place, là, je travaille un numéro, là, j'avance de quoi. Puis entre les bits, ben, t'sais, ça va être de... J'essaye une idée, j'essaye un phrasé, j'essaye des trucs comme ça. Puis quand je tombe sur quelque chose, j'enregistre tous mes shows. Quand je tombe sur une bonne formulation ou un petit détail qu'il faut pas que j'oublie, je le prends en note dans mon cahier. Puis le show d'après, je le réintègre dans ma nouvelle affaire. Puis là, je valide que ça fonctionne. Puis j'avance. Puis ça peut être des petits détails. Ça peut être d'enlever une phrase, prendre un bout de phrase, puis le tasser juste un peu plus loin, changer un mot qui est plus évocateur qu'un autre. C'est vraiment des petits détails. Mais ces temps-ci, je suis en mode... Là, j'étais en mode écriture pour une émission que je vais, qui va être annoncée bientôt. Fait que je suis comme... J'écris du stand-up un peu, mais pas autant que je devrais. Je vais recommencer cet été, je vais écrire beaucoup plus cet automne aussi. Mais là, j'ai déjà bâti à peu près 1h15 pour le nouveau show. Je m'attends avec mes standards qui ont pas rapport de couper sûrement 45 minutes de ça et de réécrire un autre 45 pour faire 1h15. Mes bits, c'est ça. Ben, ça dépend. Si je travaille pour un truc précis, mettons je travaille pour un gala, puis il faut que j'aille un numéro, là, entre chaque show, je réécoute, je check si tout est clair, qu'est-ce qui nuit, qu'est-ce qui aide. Je fais des moyennes aussi, là, cette joke-là, elle marche, mettons, 1 fois sur 4, là, tu fais que c'est pas assez bon, fait que là, je la coupe ou je l'améliore, puis j'essaie de corriger ce problème-là jusqu'à ce que j'abandonne, puis je fasse juste l'enlever. Fait que tu check c'est quoi tes valeurs sûres. Puis aussi l'intention, des fois, il y a des jokes qui reposent sur comment tu joues, puis comment tu le dis. Parce qu'il y a beaucoup d'informations dans le non-verbal, puis de deux, dans l'intonation. Tu sais, tu peux... Dans ton intonation, il y a ton intention du jeu, il y a l'intention de ton angle. Tu sais, tu peux catcher la personne à quel point est sérieuse ou pas, elle déconne, elle a un petit ton espiègle ou elle a un ton agressif. Tu sais, c'est toutes des affaires qui font que toi, quand tu écoutes une joke, ben tu ne reçois pas de la même façon si tu sens que le gars il a un sourire en le disant versus il est full fâché pour un punch. T'sais. Fait que c'est ça. C'est des petits détails de même que tu ramasses. Puis chaque show que tu fais, ben, tu as des nouvelles informations. Puis si tu te laisses aller, moi, je suis quand même assez lousse en côté impro là, ces temps-ci. Si je me laisse partir sur une bulle puis juste riffer là-dessus pour voir s'il y a un gag au bout puis je peux pas trouver quelque chose, ben là, j'y réécoute. Puis si ça marche, ben je l'écris puis je l'intègre. Puis des fois aussi, il y a une idée, tu sais, que je fais complètement différemment de comment je suis habitué de la faire. Fait que je suis habitué de faire une joke, mettons, cette prémisse-là, ce punch-là. Et là, je cherche à grossir le bit. Fait que j'oublie la joke comme si elle n'existait pas. Je reprends l'idée, puis je l'intègre dans un bit, puis je fais juste improviser l'idée, puis repartir dessus, puis voir si je suis capable d'aller ailleurs avec la même idée, puis trouver quelque chose de plus efficace. Fait que c'est vraiment la façon dont je travaille. Mais là, je suis plus à l'étape de gestation. J'écris puis je continue tout le temps parce que je veux dire, j'ai du stock, fait que je peux faire plein de shows puis travailler des affaires comme ça. Ça, c'est du micro-détail, j'appelle, là, dans ce rodage-là. Mais de l'autre côté, avant de faire ce travail-là, il y a un travail de pondre une idée puis de l'écrire puis de jamais l'avoir essayé. Puis ces temps-ci, je suis dans cette espèce de passe-là de ça fait une couple de mois que je mijote des affaires puis... Je prends des notes, puis à un moment donné, je m'assois, puis je vomis tout. Puis en dedans de un mois, j'ai genre 45 minutes de nouveau stock. Puis là, je rentre dedans, je l'amène en show, puis là, j'ai peur, puis j'enlève les affaires, puis je fais du ménage. T'sais. Fait que c'est vraiment ça. C'est comme, j'ai des longues périodes de mijotage, bref. Je mijote longtemps, puis à un moment donné, tout sort, puis c'est parce que... J'y pense tout le temps, là, ces idées-là, puis j'ai une nouvelle idée, puis là, je prends une note, puis j'ai mis à côté de cet angle-là ou de cette idée de numéro-là. Puis à un moment donné, quand je passe à l'action de m'asseoir puis taper, tout sort, tout est clair, pas mal. Puis il me reste juste à le fine-tuner, à roder, à trouver les bons gags, puis à faire du ménage. Mais j'ai besoin que les idées mûrissent longtemps dans ma tête pour être sûr que c'est ça, que c'est une bonne idée. Parce que si elle revient tout le temps, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose dedans. Là. Des fois, tu as des idées, puis... Donc, tu animes une soirée d'humour à chaque semaine, mais tu as besoin de pondre du stock à chaque semaine. Fait que tu n'as même pas le temps de te penser si j'ai-tu vraiment le goût de jaser de tout ça, ça m'intéresse-tu? T'sais, tu te questionnes pas ces affaires-là. Mais quand tu as le luxe puis que personne n'attend après tes numéros, puis c'est toi qui décides de quand est-ce que tu vas relancer un show, ben la beauté de ça, c'est que tu as le temps de te poser la question. Genre, je veux-tu jaser de ça? Moi, t'sais, fait, au lieu d'être rushé par le temps et de devoir pondre parce que tu as une animation la semaine d'après à faire. T'sais. Il y a quelque chose là-dedans de que j'aime bien dans le processus. Puis ça marche bien pour moi depuis une couple d'années. Fait que je travaille de même. Comment ça se passe dans ta tête quand tu fais de la route? Est-ce que tu travailles tes bites ou tu focuses sur la route? Je fais tout le temps tout. Je focus le moins possible sur la route. Là. Je focus au minimum. Mais hey, là, il y a des chars qui me passent et qui me voient parler avec un micro. Puis c'est drôle, mais c'est pas grave. Je regarderai pas. Si je les vois pas, ils me voient pas. Je focus sur la route correcte, dans le sens où je suis habitué, je suis sécuritaire. Moi, je roule jamais super vite. Je suis le temps sur le cruise control. Je suis pro-sécurité, bien faire ça. Pas besoin d'être dans la voie de gauche pour rien. Je colle pas le monde dans le cul. T'sais. Fait que je suis assez sécuritaire, en fait, en général. Fait que je focus sur la route le minimum que j'ai besoin. C'est ça. Le maximum que j'ai besoin d'être focusé, je suis là. Puis sinon, ben, les bits, en fait, c'est que ça se travaille tout le temps, comme je dis, c'est je mijote, puis c'est tout le temps comme ça. C'est cette espèce de vibe-là de je pense à quelque chose. Quand je m'en vais vers un show, je pense pas à mes lignes en tant que telles. Ça, une fois que je l'écris, je l'ai mémorisé pour la vie. Là. J'ai toujours été de même. Je sais pas pourquoi. Là. Du monde qui a de la misère à prendre leur texte, moi, j'ai de la misère à comme les oublier. Là. Je fais, la plupart du temps, je pense à une joke, je l'écris, elle marche. À partir de là, je m'en souviens pour le restant de mes jours. Là. C'est vraiment weird. Fait que ça, c'est le fun. Là. J'ai pas besoin de répéter 2 heures chez nous à chaque jour avant de... Je répète rarement, en fait. Moi, c'est je jase, en fait, sur scène. Fait je sais ce que je veux dire. Fait j'ai pas besoin de répéter mon texte. Puis je trouve que ça rend mécanique aussi, puis tout ça. À moins d'avoir un one-man show officiel, là, un gros one-man show avec un metteur en scène, que là, on s'en va en prod sérieuse avec un truck, un 52 pieds, puis whatever. Là, t'sais, j'exagère, là, mais à moins d'avoir ça, puis là, répéter avec un metteur en scène, ce que j'ai déjà fait pour des heures, puis du stand-up, j'ai comme je peux changer ma façon de faire, puis je vais amener des gens comme ça pour répéter puis pour checker mes trucs, metteur en scène, mais ça va être vraiment plus tard dans le processus. Comme là, j'ai même pas mon script éditeur encore pour ce show-là. Là. J'ai déjà choisi, puis je sais déjà avec qui je veux travailler, mais j'ai pas besoin qu'il soit là pour l'instant, fait que je veux pas y faire perdre son temps. J'ai encore besoin de juste pondre des idées, essayer des bits, essayer des affaires, explorer, faire du ménage. Puis à un moment donné, ben, j'y arrive, puis je fais bon, ben, j'ai une heure et quart tight. J'ai filmé un show, check ça, on part de là, là. Puis dans un an, ça me prend un show. Fait que tu sais, j'y arrive déjà avec une base super solide, puis là, il m'aide à faire comme bon, ben, on fait ça de même, puis. Ce qui n'était pas la question initiale, fait que désolé. Mais c'est sûr, je pense pas à mes lignes. Et peux-tu revenir sur ton passage à couple ouvert, de loin, le meilleur à date pour moi? Merci, c'était super le fun, Couple ouvert. J'ai hâte que vous l'écoutiez. Si vous êtes le Patreon de Couple ouvert de Thomas Levac, vous l'avez peut-être écouté. Mais sinon, je sais qu'il y a reçu plein de messages là, de monde. Je pense qu'il y a des gens qui sont sur les deux Patreon. Puis il était comme ah, j'avais hâte de l'écouter et tout ça. Fait que j'étais content de savoir qu'il y avait des fans des deux bars. Je trouve ça nice quand je vois vos noms. Parce que moi, je m'attache à vous autres. Là, je vois vos noms passer. Je fais comme ah, allô, comment ça va? Puis fait que quand je vois vos noms ailleurs sur d'autres projets, je fais comme ah, oh, ouais. Genre, je pense au projet, puis vous êtes en bonne main. C'est du bon monde, ça. Je les connais, Loulou et d'autres gens que là, évidemment, ils me popent pas en tête. Là. Il y en a une couple qui ont écrit. Puis j'ai compté une anecdote dans Couple ouvert qui va sortir publiquement. Vous allez pouvoir l'écouter avec une demoiselle. Dans le temps, je prenais des antidépresseurs, puis c'était une de mes amies que je fréquentais. Et une anecdote à saveur sexu. Et elle a écrit au podcast, faire « Hey, c'est moi ça! » Puis là, je trouvais ça très drôle. Parce qu'il n'y avait rien de dégradant là-dedans. Ça n'était que, c'était super positif comme anecdote. Là. Mais vous l'écouterez, vous me direz comment ça s'est passé. Mais c'était super le fun, vraiment cool. Écoute, ils ont un beau, beau show, eux autres. Là. Steph et Tom ensemble, c'est un beau duo. Puis à la fin, ils lisent des lettres, des courriers du public. Et j'ai vraiment trouvé ça le fun. C'est quelque chose que j'aimerais faire, ça, peut-être... Je vais peut-être changer un peu la formule. Puis ça, ben, c'est la dernière question que j'ai reçue. Ben, c'est pas la dernière, mais qu'il me reste à passer. Il y avait deux points, dont un qui était par rapport à changer la formule. Fait que je vais répondre à sa première question. Et après ça, je vais finir avec ça. Comment tu ressens la scène de l'humour? Excuse-moi. Il y a Charles qui me fait chier. Comment tu ressens la scène de l'humour maintenant après 2 ans de chiage? Est-ce que le monde a compris de ses erreurs? Est-ce que ceux qui devaient disparaître ont disparu? Quel avenir tu vois dans la scène? OK. Il y a beaucoup de stock là-dedans. Ceux qui devaient disparaître ont disparu. Oui puis non, tu sais. Ceux qui ont été vraiment outés puis martelés par tout le monde ont pas eu le choix de disparaître, fait qu'ils sont disparus, mais ceux qui étaient sur la liste, mais qu'ils se sont fait oublier un peu, ben eux autres, ils continuent, là, parce qu'ils continuent de faire leurs affaires, puis fait qu'ils sont encore là. Est-ce qu'ils ont compris de leurs erreurs? Faudrait leur demander à eux autres. Je le sais pas, tu sais, je sais pas. Moi, si t'es capable d'avoir des comportements de même, si tu peux réellement apprendre de tes erreurs, là, peut-être, là. Si c'est une fois, peut-être que tu peux faire « Hey, je l'ai échappé, c'était vraiment une erreur, tout ça. » Mais tu sais, c'est des affaires à répétition, tu sais. Je veux pas trop m'embarquer là-dedans, honnêtement. Là. Moi, ce monde-là, je focus pas là-dessus. Tu sais, je disais, moi, j'en fais pas de marde. J'essaie de me tenir drette. J'essaie de faire sentir les filles tout le temps le mieux possible, en permanence. Mais ça, c'est depuis bien avant que ce soit le Me Too pis ces patentes-là. Là. Moi, ça a toujours été comme... T'es une collègue, puis je veux dire, moi, j'ai toujours été très sérieux dans le travail, là, j'ai jamais voulu mélanger séduction, le flirt et le travail, parce que c'est tellement important pour moi d'avoir une carrière puis de travailler en humour que je me disais, ouais, mais des histoires de même de cul entre collègues ou de genre de flirtage, ça fait tout le temps de la chicane, ça fait du drame, puis ça pourrait affecter ma job d'une certaine façon. Ça fait que ça pourrait comme nuire à ma carrière. Puis j'étais comme, non, je ne m'embarquerai jamais là-dedans. Fait que j'ai toujours été très, très fermé. Puis j'ai toujours zéro dégagé le sexe. C'est vraiment ça. J'ai plein d'amis, filles en humour, là, qui me disaient ça. Là, qui me disaient, tu pues zéro le cul. Là. Il était comme, tu dégages pas ça pantoute. Puis on le sent que t'es là pour faire ta job, puis travailler, puis... Fait qu'on se sent à l'aise. Fait que ça me touche parce que pour moi, c'est important justement de... T'es une collègue, là. T'es pas... C'est pas parce que t'es une fille que, genre, obligatoirement, t'es un objet potentiel de désir, là. J'ai toujours trouvé ça cave, le monde qui pensait de même, là, de... Tu sais, comme à Big Brother, là, il y a eu le chanteur de Respectables qui était comme, moi, je peux pas dormir d'une chambre avec des filles, je fais une promesse à ma blonde. Là, t'es comme... Mais non, t'es pas capable de dormir. Fait que tu sais quoi, toi, tu peux pas concevoir que... Une relation avec une femme peut être autre chose qu'on va coucher ensemble à un moment donné. Genre, ça existe pas, toi, des amitiés, mettre ses limites. Ça se peut pas, toi, là, ça, là. Genre que tu te contrôles pas à ce point-là que genre, ah non, s'il y a une fille, moi, je serais pas bien, puis je vais avoir le... Tu sais, voyons, ça m'a toujours fait chier. Fait que, voilà, je sais pas. Puis pour le monde de l'humour, ben écoute, le monde de l'humour va bien. Ça a fait du bien à plein de gens. Il y a des gens à qui ça a pas fait de bien, mais en majorité, la plupart des humoristes à qui je parle, la pandémie, même si ça a été rough financièrement, mentalement, a fait du bien. Tout le monde a pris du recul, tout le monde est plus heureux, fait les choses selon ses termes. Tout le monde est comme, hey, moi, je vais à la vitesse que je veux, puis that's it. Parce que, tu sais, l'industrie dicte une vitesse qui a aucun rapport parce qu'elle a le besoin que tu produises, puis tu produises, parce que t'es le produit puis il a besoin de faire du cash. Fait que c'est facile de sentir que t'es en retard puis que tu manques de quoi. Mais le 2 ans de pandémie, il nous a comme tout envoyé le message de « Hey, t'as le droit de pas bien te sentir, t'as le droit d'être pas sûr, t'as le droit de... » Puis on dirait que ça l'a ramené cette philosophie-là de là, tout le monde est comme bien chill, fait ses affaires. On a des deadlines, on a des rushs, mais ça a tout mis en perspective. Puis on est comme, hey, je vais pas me sacrer en burn-out pour ça, là, ça vaut pas la peine. Fait il y a un beau lâcher-prise collectif, je trouve, honnêtement, que j'observe, là, du moins depuis qu'on a recommencé à jouer. De tout le monde que je croise, tout le monde est comme, non, j'ai pas le goût de courir, j'ai pas le goût de me ressacrer là-dedans. Il y en a qui ont ce tempérament-là, puis c'est ça qu'ils veulent. Fait que c'est correct, là, ils battent le fer pendant qu'il est chaud, mais la plupart des gens sont comme, non, je fais mes affaires, puis je veux pas me rendre malade, là. J'ai plus le goût, là. Et là, je reviens à la question qu'il posait. Tu parlais de laisser le carré de sable disparaître. Dis-nous en plus. Si quelqu'un souhaitait le reprendre, qu'est-ce que tu dirais? En fait, je parlais pas de laisser le carré de sable disparaître. C'était juste... ça, c'est une discussion que j'ai eue dans le Patreon, avec les gens du Patreon. Je remettais en question la forme, voire la pertinence du carré de sable. Là, mettons, quand je dis carré de sable, là, c'est pas tout, là. Il y a carré de sable qui sont les entrevues que je fais avec des gens du milieu, la plupart du temps, du milieu artistique ou des médias, mettons. Il y a Curieux Rivard, où je rencontre des experts dans des domaines, des thanatologues, un docteur en intelligence artificielle. Et il y a selon une étude qui ça est un projet à côté, qui n'est pas dans le carré de sable. Donc, le carré de sable, c'est plus la portion, j'invite des amis humoristes, on jase, c'est relax, on cherche pas à puncher tout ça. Ça, je le remettais en question, puis je le remets peut-être encore en question. Je pense que c'est important de douter. Faut pas trop douter, ce qui est souvent mon problème, mais c'est important de s'en remettre en question puis de douter pour justement vouloir améliorer les trucs puis se poser... T'sais. Curieux Rivard, je l'ai parti parce qu'à un moment donné, j'étais comme, justement, tout le monde s'est parti à un podcast à un moment donné, puis tout le monde fait la même affaire de la plupart des gens, parce que là, c'est pas vrai, là, il y en a plein qui font des trucs originaux, mais la plupart des gens faisaient « OK, j'invite des humoristes, puis on jase. » Puis... C'est tout à un moment donné, ça fait là, des podcasts entre humoristes qui jasent d'humour. Là. Puis j'en fais partie de ça. Là. C'est juste que quand j'ai commencé, il n'y en avait pas. Il y avait trois bières, moi, Jer, puis Mike Ward qui était devant le public. Fait qu'à ce moment-là, mon offre était intéressante. Et là, plus ça avance, quand tout le monde s'est mis à en avoir un, puis tout le monde faisait sensiblement la même chose, je me suis dit, ben là, est-ce que c'est encore utile ou pertinent que je fasse ce style de show-là où je reçois un chum, puis on jase, puis c'est relax? Puis les gens étaient super fins, là, vous m'avez rassuré sur, ben il y a le ton que t'as, ta vibe, le style de question que tu poses. Ça, c'est quelque chose qui a sa propre couleur, puis qui fait que, oui, même si c'est des humoristes qui se jasent entre eux autres, c'est le tien qu'on a le goût d'écouter parce qu'on aime, mettons, ta façon de jaser avec le monde, puis ton énergie en général, là. Fait que ça, merci beaucoup, ça m'a vraiment rassuré. Mais effectivement, il y en a beaucoup, des podcasts comme ça. Donc, mon questionnement est juste au niveau de la forme. Peut-être que Curieux Rivard, selon une étude, je continue. Mais le carré de sable en tant que tel, je vais explorer d'autres affaires. J'aimerais ça avoir un show peut-être plus drôle, plus dans le divertissement. Tu sais, Couple ouvert, j'ai vraiment aimé ça, moi, juste... jaser, tu sais, lire les lettres de quelqu'un puis qu'on punch là-dessus puis qu'on s'amuse puis il y a quelque chose de le fun aussi dans faire un show qui est plus axé sur le divertissement d'être drôle mais avec une prémisse intéressante puis les bonnes personnes. Fait que c'est quoi? C'est-tu un cast récurrent de c'est tout le temps les mêmes trois personnes, la Ligue du Vieux Poil puis on jase puis on est dans le punch, là, on n'est pas dans le real talk. Ben peut-être un peu, là, mais on est vraiment plus performance, là. Ce qui est un, appelons ça un produit que j'offre pas là, au niveau du podcast. Moi, je suis plus dans la discussion, genre sincère, puis de juste aller au fond des choses. Fait que peut-être que je m'enlignerais vers ça. Peut-être que aussi le virtuel, à cause de la pandémie, m'a peut-être turné off un peu sur j'ai besoin des humains dans ma face, moi. Puis là, j'ai commencé à en tourner chez nous. Puis déjà là, ça me fait du bien, la vibe est le fun. Puis je me disais, OK, c'était peut-être juste passager. Fait que bref, c'était ça la remise en question, tu sais, de qu'est-ce que je fais avec ça. Puis c'est ça, c'était surtout ça. C'était, est-ce que c'est pertinent? Tu sais, ça intéresse-tu le monde pour vrai encore? Tu sais, les statistiques sont bonnes, mais je me pose quand même la question, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est encore sa place? Parce qu'à un moment donné, tous les humoristes, c'était le fun au début parce que t'apprenais à les connaître, parce que t'y connaissais pas. Du côté personnel, plus humain. Mais là, une fois qu'il y a 48 podcasts puis que tout le monde est allé 2-3 fois, ben tu connais tout le monde par cœur, tu connais leurs anecdotes, tu connais leur vibe. Fait
n'y a plus l'élément nouveauté de découvrir quelqu'un, tu sais. Fait que voilà, je suis en réflexion là-dessus, il n'y a rien qui est seté. Je vous abandonne pas. Abandonnez-moi pas, je vous abandonne pas. On fait ça ensemble. Puis ça se peut que je continue d'explorer. Comme là, je fais un pot de char. Et c'est juste parce que j'avais le goût d'essayer ça. Tu sais, fait que je fais ça. Puis je vais essayer d'autres formules. Je vais voir. Le but, c'est de... Je veux me ramener à la base de pourquoi j'ai parti le podcast. Puis ce que j'aime des podcasts, qui est la liberté de juste... essayer des affaires, faire des expériences. Tu sais, je n'ai fait un motorisé en traversant le Canada avec Joe Guérin. J'en ai fait dans un trailer, un festival, dans des loges, en char. Tu sais, j'aime ça, l'idée d'essayer des trucs puis de capturer un moment puis voir, hey, tu sais, les humains vont être dans ce contexte-là. Est-ce que si on fait un podcast, ça va être une énergie le fun, que ce serait intéressant de capturer puis ça donnerait un bon show? Juste l'essayer. Puis si c'est bon, cool. Si c'est pas bon, ben c'est pas grave, on l'a fait. C'était ça le podcast au début, puis là, on dirait que la game est rendue beaucoup plus corporate, de tout le monde est un commanditaire, tout le monde fait sa plug qu'ils sont habitués de faire, tout le monde achale tout le monde pour être sur le Patreon, puis là, encore une fois, j'en fais partie. Mais tu sais, il y a cette vibe-là là, que ça commence à tirer sur la radio, là, puis on se vantait au début de pas faire comme la TV puis la radio, puis on était cool nous autres, puis des podcasts, on fait ce qu'on veut, on a une liberté. Puis aussitôt qu'il y a eu de la compétition, tout le monde est devenu comme la télé. Ça s'est mis à inviter juste des grosses vedettes pour avoir full de clics. On veut de la pub, des commanditaires. Puis c'est devenu un peu la même chose. Fait que c'est pour ça que moi, tu sais, j'en ai des offres de commanditaires, mais je dis pas, tu sais, je dis souvent non. Puis je fais, oh, ça m'intéresse pas. Je veux pas, j'essaie de pas commencer à être ce gars-là qui fait, hey, oublie pas de te raser la poche avec Manscaped. T'sais, ils m'ont écrit, je leur ai réécrit, puis genre, j'ai oublié de leur renvoyer un message pour leur donner ma réponse. Là. J'étais comme, je sais pas. Peut-être que parce que le Patreon existe, j'ai un peu de liberté. T'sais, c'est pas, c'est, ça rapporte des sous, mais ça compense pas. Là. C'est sûr que je prendrais la pub, mais peut-être que vu que ça, c'est là, puis que je fais d'autres affaires, puis j'ai d'autres revenus, ben, je sens moins la pression d'avoir de la publicité puis un commanditaire. Puis je me ferme pas à l'idée non plus, tu sais, si jamais je vois que ben c'est une source monétaire qui me permet d'effrayer des coûts, ben je vais peut-être le faire. Parce que, tu sais, mettons, selon une étude et tout ça, je loue un studio pour ça, puis tu sais, ça me coûte quand même pas mal d'argent pour faire des... pour faire toute la production que je fais. Fait à un moment donné, je peux comprendre que je veux que ça revienne, mais vu que je fais d'autres jobs on the side, tu sais, puis ça va tout dans le même compte de banque, je me dis, bon, ben je regarde pas trop les dépenses. Là. C'est à la fin de l'année quand je fais mes impôts que je fais « Ah ouais, OK, fait que ça m'a rapporté tant, puis j'ai dépensé tant. » Tu fais « Ah, OK, non, mais j'ai du fun. Je continue. » Fait que voilà, c'était... J'arrive à Montréal, là, puis je t'attends pour mon meeting. C'est pas si pire. Je suis bien pété. J'espère que j'aurai le temps de dormir, mais je pense pas. Faut que je dorme après. Ce soir, je suis de garde avec le fils de ma blonde. C'est moi qui vais le chercher à la garderie. J'adore ça. Asti, j'aime ça. Je vais le chercher, puis là, je sonne, puis je dis « Je vais aller chercher. » Puis là, il me voit, puis il fait « Ouais! » Puis là, il part à la course, puis il est tout content. Puis là, on va à son casier, puis on enlève les souliers, on met les bottes, puis on s'en va à la maison. Puis là, je trouve ça vraiment, vraiment le fun à vivre, cette bout-là. Fait que, puis il a fait une joke cette semaine. Je suis allé le chercher cette semaine, puis je faisais à souper. Puis là, il y a 3 ans, tu sais. Puis là, il se prend un petit jus de pomme. Puis là, je dis, tu veux-tu que je t'aide avec mettre la paille, tu sais? Puis il fait non. Puis là, il prend la paille, puis il la rentre lui-même. Puis là, j'étais comme, waouh, tu sais, bravo. Fait que là, je me dis, je vais l'encourager. Je fais, hey, t'es bon, tu sais. Puis là, en joke, j'ai dit, ben là, t'es capable du seul, tu sais, à quoi que je sers, moi, maintenant? Puis j'étais en train de faire le souper, j'étais en train de faire cuire des raviolis. Puis il dit, tu sers à me donner des pâtes. Puis j'étais comme, waouh, il y a 3 ans, il vient de me puncher dans la gueule. J'ai fait un high five, j'ai fait bravo, je suis fier de toi. Ok, sur ça, merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que ma voix de matin qui casse un peu avec 8 cafés puis trop de cigares vous a pas gossé. Si vous aimez ça, écrivez-moi. J'ai besoin de votre feedback, moi. Moi, j'essaie des affaires, mais j'ai besoin que vous m'écriviez pour me dire « Hey, ça, j'aime ça. Fais-en plus, fais-en moins. Whatever. » Puis des questions pour les prochains. Si vous avez des questions pour les prochains potes de char, ça m'aide beaucoup à passer le temps. J'aime vraiment ça. Fait que envoyez-moi vos questions. Moi, je vais les prendre, je vais les mettre dans un document. Puis même que je fasse un autre pote de char, ben, m'a repassé ça. Puis comme là, il y en avait une qui m'en demandait de parler de Donjons Dragons. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus.
Mais bon, peut-être en... je vais trouver des affaires à dire pour le prochain. Fait que voilà, prenez soin de vous autres. Moi, je m'en vais faire une power nap de 15 minutes avant un meeting. Salut!